Tout à fait. Il faut savoir que la mission de l'aide à l'église en détresse, c'est bien sûr de parler des persécutions contre les chrétiens dans le monde. Mais depuis quelques années, à côté de cet exposé des faits, nous communiquons également de plus en plus sur justement cette question de la liberté religieuse. Et nous observons d'ailleurs que le Vatican, à commencer par le Saint-Père, parle également de plus en plus de cela. Cette année 2010, il y a eu une époque où pratiquement toutes les semaines, il y avait une communication sur ce thème de la part du Vatican. À tel point que même récemment, par exemple, lorsqu'il y a eu l'ordination illégitime d'un évêque chinois, qui ressort largement de la persécution, les mots employés par le Vatican ont été une grave violation de la liberté religieuse et ils n'ont pas parlé de persécution en tant que telle. Et c'est pourquoi nous trouvons ça très intéressant que ce thème choisi pour le 1er janvier, la Journée mondiale de la paix, soit justement celui de la liberté religieuse. Il faut savoir également que l'aide à l'Église en détresse vient de publier ce qu'elle fait chaque année depuis assez longtemps, le rapport 2010 sur la liberté religieuse dans le monde. Cela montre à quel point c'est un thème qui aujourd'hui est très important pour nous.
Les chrétiens sont à l'heure actuelle le groupe religieux en but au plus grand nombre de persécutions à cause de leur foi. C'est ce que relève donc le pape dans ce texte pour le 1er janvier intitulé « La liberté religieuse, chemin vers la paix ». Il parle de tous les continents, l'Asie, l'Afrique, le Moyen-Orient bien sûr, la Terre Sainte. Et il cite bien sûr cet exemple emblématique de cette année, l'Irak, avec les attentats à répétition. C'est une cause qui vous est chère, surtout en ce temps de Noël ?
Tout à fait. L'aspect tout d'abord que les chrétiens sont les principales victimes de l'absence de liberté religieuse ressort très clairement de toutes les études qui sont faites à ce sujet. Par exemple, dans notre rapport 2010, sur les 194 pays étudiés, où nous étudions la liberté religieuse pour tous les groupes religieux, il apparaît clairement que ce sont les chrétiens, encore une fois, qui sont principalement concernés. Bien sûr, le Moyen-Orient aujourd'hui est une des régions les plus difficiles pour les chrétiens, et l'Irak est aujourd'hui le lieu où cette crise s'exprime de manière paroxystique. Tout le monde a aujourd'hui suivi ce qui s'est passé fin octobre. Malheureusement, les attentats contre les chrétiens continuent de manière moins dramatique, disons, sur un volume moins important. Les médias n'en parlent moins, ou n'en parlent plus. Mais il y a clairement aujourd'hui une volonté de certains extrémistes de faire fuir toute présence chrétienne de ce pays. Et c'est la raison pour laquelle, à l'approche de Noël, nous devons être d'autant plus attentifs à ce que les chrétiens vivent dans cette région du monde, sachant que nos racines spirituelles sont là-bas. Après tout, le Christ est né au Moyen-Orient.
Alors, des murs de ciment qui vont jusque 3 mètres de haut sont présentement érigés autour des églises de Bagdad, de Mossoul, et cela afin de protéger les chrétiens qui se rendront dans les églises au moment de Noël pour éviter qu'ils ne soient de nouveau la cible des extrémistes. Vous, AED, vous avez décidé de les aider directement, ces chrétiens qui sont restés là-bas?
Alors, deux choses. D'abord, les murs, effectivement, c'est vraiment une solution d'urgence, de protection. En même temps, on peut craindre que cela ressemble également à une forme de ghettoisation. On met des murs, ce qui est censé protéger les églises, c'est également une manière de les cacher, vous voyez. Donc ce sont des mesures qui sont compréhensibles dans un premier temps, mais à long terme ne sont pas forcément les bienvenus. Quant à nous, les chrétiens d'Orient, les chrétiens d'Irak, bien sûr, nous les soutenons déjà depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, nous sommes à la fois dans l'urgence, c'est-à-dire venir en aide matériellement aux réfugiés chrétiens, qui sont pour la plupart réfugiés à l'intérieur du pays, mais dans d'autres régions, qui ne sont plus chez eux, ou qui sont réfugiés un peu plus loin, toujours au Moyen-Orient, mais dans d'autres pays. Et nous sommes également toujours dans la formation des séminaristes, qui est une de nos priorités, et donc le soutien pastoral de l'Église en Irak et qui en a aujourd'hui le plus grand besoin.
Alors le pape donc lance un appel pour que l'on mette fin aux persécutions des chrétiens de par le monde et l'on sait ce que cela veut dire, mais une partie de son message pour le 1er janvier parle aussi de l'Occident, d'une certaine hostilité, de préjugés, une intolérance croissante à l'égard des chrétiens dans les pays dits du premier monde. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous parle à AED?
Bien sûr, nous, il est vrai que nous sommes attentifs à ce qui se passe dans le monde entier. Nous soutenons l'Église dans 145 pays. Aujourd'hui, les principaux motifs de persécution sont soit d'origine religieuse, on a essentiellement un problème avec l'islam aujourd'hui, mais également des soucis avec l'hindouisme en Inde, avec le bouddhisme dans certains pays asiatiques, ou alors ont pour origine des motifs idéologiques, notamment des pays totalitaires, avec des dictatures comme la Chine ou la péninsule indochinoise, Cuba, etc. Bon. Par contre, en Europe ou en Occident de manière générale, évidemment, la persécution ne s'exprime pas de la même manière. Elle est sournoise, elle est indirecte, elle est souvent le fait des médias, mais elle n'en est pas plus moins inquiétante. Au contraire, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est dans un climat délétère où il est facile et gratuit de s'en prendre aux chrétiens. Malheureusement, à long terme, il se peut que ce genre d'attitude finisse par avoir des conséquences plus dramatiques, plus concrètes sur les communautés chrétiennes. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes également particulièrement attentifs à ce point.
Est-ce que AED aide aussi l'Église encore en Europe? Ça a été le cas longtemps pour l'Église persécutée d'Europe de l'Est?
Oui, alors effectivement, nous sommes particulièrement présents en Europe de l'Est, toujours. En réalité, nous avons longtemps parlé de l'Europe de l'Est, notamment au moment où l'Europe était coupée en deux, et avec la persécution contre l'Église derrière le rideau de fer. Mais à l'époque, nous ne pouvions pas faire grand-chose. Nous arrivions à faire acheminer de manière clandestine un petit peu d'aide matérielle, mais il était très difficile de faire plus. Depuis 20 ans, notre aide à l'Europe de l'Est a beaucoup augmenté. Il a fallu tout reconstruire. Aujourd'hui, l'Église là-bas connaît une certaine vitalité, notamment en termes de vocation sacerdotale ou religieuse. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui assez actifs dans ces pays, tous les pays de l'Europe de l'Est jusqu'à la Russie. En Europe occidentale, par contre, nous soutenons quelques projets, mais de manière plus ponctuelle, notamment des projets pour l'évangélisation ou la nouvelle évangélisation. Mais il est vrai que l'Europe occidentale, pour le moment, n'est pas notre priorité en termes de projet.